études et de la recherche pour le groupe de réflexion La Fabrique de la Cité à Paris, qui est consacré aux questions de prospective urbaine. Vous êtes docteur en géographie, en urbanisme et en sociologie. Vous avez exercé en tant qu'enseignante chercheuse en France et en Allemagne. Et vous êtes également passée par l'Agence d'urbanisme de Lille. Vous avez pu travailler à l'analyse stratégique des grands projets urbains de la métropole lilloise. Votre travail aujourd'hui porte notamment sur la résilience appliquée aux territoires et aux villes, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Donc voilà, pour ouvrir cette journée d'études, vous allez nous proposer une intervention introductive qui portera sur la résilience urbaine, ce qui nous permettra dès le début de cette journée de bien comprendre ce que l'on entend par la notion de résilience, quels sont les risques auxquels les villes sont confrontées aujourd'hui, et peut-être aussi quelles leviers d'action sont à leur disposition pour y faire face. Cette intervention va durer 20 minutes. Elle sera suivie d'un temps de questions d'un peu moins de 10 minutes avant que nous accueillions notre second intervenant pour cette rencontre. Afin de faciliter les échanges, j'invite le public à écrire ses questions et réactions dans le chat de la conférence comme on a pu le faire jusqu'à présent. N'hésitez pas à le faire aussi bien pendant l'intervention qu'à la fin de l'intervention, selon votre inspiration. Et dans tous les cas, je me chargerai à la fin de la conférence de relier les questions à l'oral, que Chloé Voisin-Bormout puisse vous répondre. Voilà. Alors, il est 9h17. Je vais couper mon micro. Je laisse la parole à Chloé Voisin-Bormout. Elle va également diffuser son diaporama. Donc, n'hésitez pas à visionner son stream en cliquant sur le petit œil avec un plus comme Guillaume vous l'a expliqué précédemment. Voilà, je vous laisse la parole. Bonne écoute à toutes et à tous.
C'est nickel.
Merci beaucoup.
Oui, bah, ça marche. Ça marche.
C'est bon?
C'est tout
bon. C'est bon pour voir mon écran? Ok, parfait. Déjà, je vais préciser deux choses qui prouvent que la résilience est quelque chose de tous les jours. Vous l'entendez, je n'ai plus de voix. Et en plus, je suis avec mon bébé malade. Donc, du coup, on va essayer de faire ça du mieux que nous pouvons dans les conditions qui sont les miennes aujourd'hui. Je m'en excuse. Alors, donc j'aimerais vous parler effectivement de la question de la résilience urbaine aujourd'hui, mais avant de pouvoir commencer à travailler sur la question de la résilience urbaine, je vais dire un mot sur la Fabrique de la Cité et sur la façon dont nous, on a travaillé sur la résilience. Donc la Fabrique de la Cité, c'est un think tank qui travaille sur les innovations urbaines, qui a été fondée en 2010 à l'initiative du groupe Vinci. Donc le groupe de BTP, et le but, c'est que nous poursuivons une mission d'intérêt général. Une mission d'intérêt général, et ça veut dire que nous animons le débat public sur des thématiques qui peuvent avoir trait à la mobilité, au bâti, aux innovations urbaines, mais également nous organisons des conférences et nous publions différents rapports. Donc là, je vous ai mis l'ensemble des rapports qui traitent plus spécifiquement de la résilience urbaine et que vous pouvez consulter sur notre site web. Ensuite, pour pouvoir parler de la résilience urbaine, donc il va falloir se poser la question sur finalement, qu'est-ce que c'est que ce concept? Vous en avez certainement entendu parler dans différents contextes, que ce soit en management, que ce soit en agriculture, que ce soit en psychologie naturellement. Et j'avoue que je n'avais jamais pensé à penser la résilience urbaine en relation avec les bibliothèques. Donc, je suis ravie que cette journée existe. Comme quoi, on peut utiliser la résilience dans n'importe quel contexte. Mais effectivement, quand on parle de résilience, on pense à des crises, et si on pense à la résilience urbaine, on va tous avoir en tête l'image de certaines villes qui ont vécu une crise, qui ont été détruites et qui ont réussi à renaître de leurs cendres. Et là, je vous ai mis l'image de la Nouvelle-Orléans à la suite de l'ouragan Katrina. Et naturellement, dans le contexte épidémique actuel, on comprend bien qu'est-ce que peut être un choc. Et la résilience, on peut avoir une notion qui est très générique, et quelle est-elle? Donc la résilience, on peut la définir comme la capacité d'une personne, d'un système, d'un objet ou d'une ville à résister à un choc et à rebondir pour retourner à un état d'équilibre. Sauf que cet état d'équilibre, quel est-il? Est-ce qu'il est exactement le même ou pas? Pas forcément. En fait, si on pense à la résilience, on peut finalement penser à la fable du chêne et du roseau, c'est-à-dire que la résilience, c'est le roseau, elle est dynamique, tandis que la résistance, le chêne, est statique. Donc, on peut dire que la première accepte, la résilience accepte la perte et le changement conséquent à l'adaptation, tandis que la seconde mise sur la protection face au choc et sur la capacité à absorber ce choc au risque de rompre si le choc est trop dur. Donc finalement, on se rend compte qu'avec la résilience, l'approche du risque se trouve modifiée. En effet, on abandonne l'espoir du risque zéro, on accepte la crise et on essaie d'amoindrir le choc et l'onde de choc de façon à ce que le système concerné soit suffisamment stable pour ne pas s'effondrer. Donc finalement, vous comprenez que la résilience, ça induit une idée d'action coordonnée et de long terme, en aval comme en amont de la crise, et c'est ce que vous montre le petit schéma à l'écran. Donc pourquoi s'intéresser à la question de la résilience urbaine en relation avec l'urbain? C'est parce que les villes entretiennent un rapport très complexe au risque. Elles sont d'abord, c'est ce qu'on appelle en géographie des risques, un enjeu. Qu'est-ce que ça veut dire un enjeu? Ça veut dire que c'est un système qui peut être particulièrement touché par une crise. Et ces différents chocs peuvent être quoi pour les villes? Ça peut être des chocs brutaux, donc qui sont très mobilisateurs, qui sont de courte durée, donc on pense notamment aux séismes, aux inondations ou au terrorisme. Mais ça peut être également des chocs délétères, qui sont moins visibles, moins mobilisateurs, et pourtant qui sont tout autant destructeurs. Donc par exemple, une épidémie de long terme, ou par exemple, une crise économique et sociale. Donc le défi le plus important de la résilience réside donc quelque chose qui est important de comprendre, c'est l'articulation entre deux temps et réside dans la capacité d'alerte et de mobilisation sur le long terme, au-delà de l'urgence. Donc, c'est-à-dire, une fois que l'urgence est passée, il faut quand même continuer à être mobilisé. On le comprend bien avec l'épidémie du coronavirus, mais également en dépit de la latence. Tant qu'il ne se passe rien, cette sorte de drôle de guerre, il faut quand même rester mobilisé. Donc ça, on le comprend également très bien avec le coronavirus. Donc, on comprend que la ville est un enjeu, c'est-à-dire qu'on risque quelque chose, elle est particulièrement vulnérable face à un risque et à une crise, mais la ville, c'est également un facteur de risque. On le sait bien par rapport au changement climatique, par exemple, que les espaces urbains aggravent ce changement climatique. Donc, elles sont facteurs de risque. Mais les villes, pour complexifier le tout, elles ne sont pas seulement enjeux, elles ne sont pas seulement facteurs, mais elles sont également acteurs. C'est-à-dire que les villes offrent à la fois la bonne échelle pour pouvoir développer une stratégie de résilience, mais elles offrent aussi la bonne échelle de gouvernance et d'acteurs pour avoir suffisamment d'acteurs et d'acteurs avec les compétences nécessaires pour mettre en place une stratégie de résilience. Donc, vous allez me dire, oui, mais très bien, mais finalement, les crises ont toujours existé, les villes ont toujours existé, globalement, elles s'en sont plus ou moins remises. Il y a des périodes plus sombres pour les villes, mais des villes qui disparaissent, ça n'existe pas forcément. Donc, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'inventer un nouveau concept alors qu'on pourrait parler de prévention des risques? Pourquoi on a eu besoin d'utiliser ce concept dans le champ urbain? C'est parce que, globalement, il y a des changements majeurs dans cette approche des risques. Le premier changement qui est majeur, c'est celui que les catastrophes ont certes toujours existé, mais on assiste aujourd'hui à une accélération très importante des phénomènes de crise. C'est-à-dire que l'accélération des phénomènes de crise est si importante que finalement, on se rend compte que les villes sont contraintes non pas d'agir, mais de réagir. Ensuite, l'autre phénomène qui change, c'est l'incertitude. Et l'incertitude est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre pour la question de la résilience. Qu'est-ce que ça veut dire l'incertitude? C'est à la fois ce qui est inconnu, ce qu'on ne sait pas du tout. C'est à la fois ce qui est aléatoire, c'est-à-dire que ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. C'est ce qui est imprévu, donc ce à quoi on n'avait pas du tout pensé. Et c'est ce qui est imprédictible. Donc la différence, c'est que là, entre l'imprévu, on aurait potentiellement pu y penser, mais on n'y a pas pensé. L'imprédictible, c'est vraiment, même si on avait tout donné, on n'aurait pas pu le savoir. Et donc, cette incertitude pose de nombreuses questions, et notamment la question des outils, la question des données, la question des connaissances scientifiques et la question de comment faire face finalement à cette incertitude quand on ne peut pas savoir. Le dernier changement majeur, c'est le fait que les menaces qui concernent les villes sont des menaces qui sont globales, mais avec des impacts qui sont locaux. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes parce que finalement, ça conduit à quoi? Ça conduit à deux attitudes différentes. La première attitude, ce sont deux attitudes qui sont très différentes, qui peuvent même être contradictoires, mais qui vous permettent de comprendre pourquoi est-ce que la notion de résilience va être utile. La première attitude face à cette incertitude, à ces chocs qui s'accélèrent, c'est le fait de dire « on va développer un idéal de maîtrise à la Descartes, être comme maître et possesseur de la nature, finalement On n'accepte pas le fait qu'il n'y ait pas de risque non maîtrisable par une innovation technique ou technologique. Donc ça, c'est une stratégie de résistance. C'est comme le chêne. On va faire en sorte de résister jusqu'à ce que le système s'effondre complètement parce qu'on n'a pas réussi à le protéger suffisamment. L'autre position qui est complètement contraire, c'est celui qui a trait à la collapsologie, de dire finalement la situation est d'une telle complexité, l'incertitude est telle, que finalement, ça ne sert à rien d'essayer de développer quelque chose, laissons faire et voyons, adaptons-nous. Donc finalement, ces deux attitudes, vous voyez bien, ne permettent pas de régler les problèmes, que ce soit la résistance ou l'abandon, finalement, c'est le même abandon face à la complexité. Et par contre, la résilience, elle offre finalement une nouvelle voie pour sortir de cette impasse entre abandon et résistance. Pourquoi ? Parce qu'elle montre qu'il est possible d'agir et qu'il ne s'agit pas uniquement de sauver les meubles, comme dans la collapsologie. Donc ça, c'est important. Mais il s'agit bien de faire en sorte de continuer à faire de la ville ce lieu du plus, de plus de confort, plus de bien-être, mais par contre avec moins. Et c'est ça qui est intéressant dans le concept de résilience, c'est que finalement, ce concept de résilience permet de dépasser l'ambition du risque zéro et permet de questionner la perte, permet de questionner le risque acceptable et reconnaître les vulnérabilités. Parce que quand on parle finalement de résilience, il y a une notion qui est fortement attachée à la notion de résilience, mais qui est souvent oubliée, dont on ne parle pas souvent, c'est de dire on est sûr qu'on va perdre quelque chose. Quand on abandonne le risque zéro, on est sûr qu'on va perdre, que quelque chose va s'effondrer. Mais pour pouvoir accepter que quelque chose s'effondre, en fait, il faut aussi discuter collectivement de savoir qu'est-ce qu'on va accepter de sacrifier face à un choc et qu'est-ce que, par contre, on va complètement refuser de perdre. Et dans ce cas-là, on va mettre en place une stratégie de protection maximale. Mais on ne va pas pouvoir tout protéger. Et enfin, ce qui est intéressant avec la résilience, c'est que finalement, on voit qu'on articule à la fois les échelles et les échelles de temps et les échelles géographiques. Pourquoi ? Parce que si on va parler de résilience et si on pense à cette action coordonnée, il va falloir penser en amont de la crise, en avant de la crise et pendant la crise naturellement, mais il va falloir également penser au choc qui atteint le système, mais également à l'onde de choc. Donc finalement, vous comprenez que la résilience, c'est une notion qui est à la fois très positive, très holistique et qui permet d'avancer et d'avoir une action. Donc on peut se dire, finalement, j'ai commencé mon propos avec une vision peut-être un peu négative de la résilience. Là, je vous montre que finalement, la résilience est un concept qui est très opérationnel, très positif, très fédérateur et mobilisateur. Donc finalement, est-ce qu'il faudrait adopter ce concept de résilience un peu partout avec une grande euphorie ? Malheureusement pas. Pourquoi ? Parce que aussi trop souvent, on oublie les présupposés qui sous-tendent la résilience. Et il y a plusieurs présupposés. Le premier présupposé, c'est celui où il faut toujours s'interroger sur la personne qui dit ce qui est un choc. Finalement, qui est-ce qui a la maîtrise du discours ? Et vous pouvez très bien le comprendre, cette notion, à l'échelle individuelle. Très certainement, vous avez tous subi à un moment un choc ou une déception ou quelque chose et vous en avez parlé à vos amis, à vos parents, à un prof qui vous a dit « Ah, c'est pas si grave que ça. Finalement, remets-toi, tu n'as pas A, tu n'as qu'à A. » Donc, quelque chose qui nie finalement ce que vous avez vécu. Et tout ça, ça vient du fait que le choc que vous avez vécu, ce n'est pas… Et quand vous en parlez à quelqu'un, et si ce quelqu'un vous dit ce type de parole, c'est lui qui a la capacité de dire est-ce que c'est un choc ou est-ce que ce n'est pas un choc. Et en fait, la question du choc est toujours liée à une personne, à un ressenti particulier. Et c'est exactement la même chose. Enfin, ça, d'un point de vue individuel, on le comprend bien, mais c'est exactement la même chose dans ces systèmes complexes de type ville. Et je vous donne un exemple qui est celui de la Nouvelle-Orléans, où finalement, la Nouvelle-Orléans a toujours été donnée comme un modèle de résilience qui a réussi à se relever de son choc après Katrina, mais on se rend bien compte, 10 ans après, que oui, dans un certain sens, la Nouvelle-Orléans a réussi à se relever, mais si on regarde les inégalités qui étaient à la source déjà de la catastrophe, c'est-à-dire d'une vulnérabilité très importante de la ville de la Nouvelle-Orléans avec des populations qui étaient très exposées au risque, on se retrouve 10 ans après, c'est le graphique que je vous montre, exactement avec les mêmes inégalités. Donc on peut se dire finalement, est-ce que le choc a été surmonté Ou si à partir du moment, les conditions qui ont créé ce choc sont les mêmes, est-ce qu'on peut dire que ce choc est surmonté? Et on voit bien que la parole est tenue par une certaine population, la frange aisée de la population de la Nouvelle-Orléans, et non pas forcément par les populations qui sont les plus vulnérables. Et d'ailleurs, les populations des quartiers noirs et les plus exposés affirment haut et fort que pour eux, la Nouvelle-Orléans ne s'est pas relevée de Katrina, toujours pas, plus de 10 ans après. Autre chose de ce autre présupposé qui a trait à la résilience, c'est le fait de dire que, et ça c'est très très fort dans ce concept de résilience, et c'est aussi ce pourquoi il est aussi mobilisateur, c'est de dire que finalement, la résilience ce n'est pas uniquement se relever, mais c'est se relever pour devenir meilleur. Donc on a tendance avec la résilience de finalement distribuer des bons points, dire à un tel, ah bah vous, vous êtes résilient, c'est bien, vous, ah vous n'avez pas réussi à vous relever, c'est pas bien. Et finalement, derrière ce concept de résilience, il y a une notion profondément normative et profondément morale à laquelle il faut forcément se méfier. La crise n'est pas forcément toujours un électrochoc salvateur qui permet de fédérer les énergies et de devenir meilleur et d'être créateur de valeur. Parfois, la crise est tout simplement une crise et les gens s'effondrent ou des villes peuvent vivre des chocs extrêmement difficiles. Autre et dernier présupposé, c'est le fait de penser que finalement, la résilience, c'est un mode d'emploi. On va pouvoir définir un mode d'emploi technique en disant, face à tel choc, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. Donc finalement, réussir à développer un mode d'emploi qu'il suffirait de suivre face à un choc. Il suffirait d'être un petit peu malin pour pouvoir déterminer, faire une typologie des différentes crises. Et en fonction des différents modes d'emploi qu'on va réussir à mettre en œuvre, on devrait réussir à s'en sortir. Penser comme ça, c'est méconnaître ce qu'est la résilience. Et un exemple très rapide qui vous permet de le comprendre, c'est cet exemple de l'amérissage de l'US Airways avec le commandant Sully. Donc, je vous invite à regarder le film avec Tom Hanks qui vous permet de comprendre la complexité du phénomène, mais qui montre bien que si le capitaine avait suivi tous les protocoles, l'avion se serait crashé. Il n'a pas suivi les protocoles et il a réussi à s'appuyer sur la force de l'humain, donc à la fois sa propre capacité, mais aussi la capacité de son équipage et de l'ensemble des passagers pour pouvoir surmonter une crise et inventer un nouveau modèle, malgré tout avec des compétences techniques qui lui ont permis d'inventer ce nouveau modèle. Mais la résilience, c'est trouver un nouveau chemin face à une crise qui est toujours nouvelle, puisque je vous le rappelle, la résilience intervient au moment d'incertitude. Donc finalement, on peut se poser quelle opérationnalité de ce concept. Pour vous donner deux exemples et conclure, je vais vous donner deux exemples de villes pour montrer dans quelle mesure des villes se sont emparées de ce concept et ont transformé leurs politiques urbaines. Le premier exemple qui est très intéressant, c'est celui de la ville de Pittsburgh, qui a transformé l'ensemble de ses politiques urbaines dans un concept dans une perspective de résilience. Très concrètement, ça donne quoi? Par rapport à la politique de mobilité, jusqu'à présent, avant d'adopter cette politique de résilience, la politique de mobilité était une politique de transport, c'est-à-dire que toutes les politiques étaient développées pour savoir comment développer, comment transporter une personne d'un point A à un point B, ou comment permettre à des véhicules de se déplacer d'un point A ou un point B. Donc on travaille sur l'infrastructure, on travaille sur le bitume, etc., sur la maintenance des infrastructures. Mais en adoptant une perspective de résilience, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que finalement, on passe des transports à la mobilité, c'est-à-dire qu'on passe de véhicules aux personnes et on ne réfléchit plus à comment bouger des personnes, mais on réfléchit à comment faire en sorte pour que ces personnes réussissent à gravir l'échelle sociale. Et pour réussir à gravir l'échelle sociale, elles ont besoin d'avoir une certaine accessibilité de la ville qui est accrue, mais elles ont également besoin d'être en bonne santé, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de ne pas être écrasées dans la rue quand elles vont marcher dans la rue sur le trottoir, et elles ont également besoin de pouvoir se nourrir correctement, et c'est pour ça que dans les buts de la stratégie de mobilité de Pittsburgh, on a des choses aussi diverses que celles de ne pas mourir dans la rue, mais aussi de pouvoir avoir accès à de la nourriture, à des légumes et à des fruits frais, à moins de 15 minutes, sans utiliser de véhicules individuels. Donc vous voyez, ça transforme complètement la perspective d'avoir une perspective de résilience. Un autre exemple, et je conclurai avec celui-ci, c'est l'exemple de Hambourg face à la crise des réfugiés de 2015. Donc vous vous rappelez de cet afflux de réfugiés massifs en Allemagne et avec la position de Angela Merkel qui a accepté d'ouvrir les frontières et d'accueillir toutes ces personnes. Cette position a créé un véritable électrochoc dans les villes allemandes qui se sont mobilisées pour pouvoir accueillir l'ensemble de ces réfugiés. Et là où c'est une perspective de résilience, c'est contrairement à d'autres pays qui ont pensé le logement d'urgence, donc comment finalement créer des camps très rapidement, avoir des logements pour ces réfugiés, pour les accueillir en urgence, l'Allemagne a décidé de dire ces personnes sont arrivées chez nous, elles vont rester chez nous. Pourquoi est-ce que ça coince? Pourquoi est-ce que finalement il peut y avoir un problème d'acceptabilité? Pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à les intégrer? On a des difficultés à les intégrer déjà parce qu'il y a un embouteillage sur le segment du logement abordable pour les Allemands. Donc, il va falloir déjà régler ce problème pour pouvoir accueillir ces personnes dignement. Donc, vous voyez, on passe de la question du logement d'urgence, donc en gros, mettre des containers pour pouvoir accueillir les gens comme certains pays l'ont fait, à une perspective de « il faut développer le logement abordable pour l'ensemble des Allemands et c'est comme ça qu'on va pouvoir favoriser leur intégration ». Donc ça, c'est du coup les logements qui ont été développés où vous voyez qu'on est sur des logements en dur qui accueillent d'abord les réfugiés et après, une fois que les réfugiés auront bien été intégrés, et pourront intégrer le marché libre du logement, ces logements réintégreront le marché libre du logement. Donc vous voyez, tous ces exemples vous montrent la richesse du concept de résilience qui effectivement est très mobilisateur, donc permet de réaliser beaucoup de choses, mais par contre il faut être aussi pris avec des pincettes, toujours parce qu'il y a cette dimension normative et morale qui peut soutenir ce concept, sous-tendre ce concept. Voilà. Merci. Et encore désolée pour le fond.
Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. C'était très, très éclairant de découvrir ce que signifie effectivement cette résilience, et notamment du point de vue. Je propose peut-être de passer directement au petit temps de questions, de discussions que nous avons prévues. Nous n'avons pas encore de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à les déposer et même à partager vos réactions. N'hésitez vraiment pas. Peut-être pour ouvrir ce temps de questions, j'aimerais savoir, vous avez dit dès le départ effectivement que la résilience, on en entend beaucoup parler un petit peu à toutes les sauces en ce moment. C'est vraiment le mot à toutes les bouches dans les discours publics. J'aimerais savoir tout d'abord ce que vous pensez de cette nouvelle appropriation du mot par la société, par l'État, etc. Mais aussi, surtout, j'aimerais savoir s'il vous semble que la notion est bien maîtrisée par les personnes qui l'utilisent désormais et si ce nouvel engouement témoigne d'un vrai travail initié vers plus de résilience ou s'il relève encore beaucoup d'une logique rhétorique.
Non, il me semble que il y a deux choses dans votre question. Il y a d'une part le fait que effectivement ce concept de résilience est un concept qui est très difficile à cerner et que beaucoup d'acteurs effectivement utilisent sans forcément en comprendre les tenants et les aboutissants. Et notamment tout ce que recouvre cette notion. Après, il y a une autre dimension de ce concept de résilience qui est que c'est très difficile de développer des indicateurs qui permettent de mesurer l'efficacité d'une stratégie de résilience. Parce que du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement on est résilient? Est-ce qu'on peut déclarer qu'une ville est résiliente est-ce qu'on peut le comprendre plutôt d'un point de vue individuel, c'est plus simple. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des personnes qui sont résilientes et des personnes qui ne sont pas résilientes, ou est-ce que finalement la résilience c'est un processus et c'est une fois que la crise est surmontée que l'on va pouvoir se déclarer résilient ou pas? Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que vous pouvez être résilient face à une crise, mais pas résilient face à toutes les crises. Ça voudrait dire que par rapport à d'autres crises, on ne pourrait pas être résilient. Et là-dessus, c'est très difficile puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la stratégie. C'est très difficile de déterminer est-ce que c'est une position ou est-ce que c'est une autre. Je suis absolument désolée. Et de l'autre côté, par contre, le côté très positif de cette notion de résilience, c'est le fait qu'elle soit très mobilisatrice. C'est-à-dire que ça change quand même énormément la perspective de l'action, le fait de pouvoir envisager de faire quelque chose face à l'incertitude. Parce qu'on se rend compte que la donnée majeure qui a changé, c'est cette incertitude qui, globalement, désempare la plupart des acteurs. Donc, en cela, ce n'est pas un concept uniquement marketing et inutile, c'est un concept qui est très intéressant. En revanche, il y a une véritable interrogation à avoir sur l'ensemble des présupposés de cette notion et sur la question des indicateurs à construire.
D'accord, c'est plus clair. Effectivement, les questions d'évaluation sont toujours un petit peu problématiques. C'est difficile d'évaluer ce genre de démarche. Et en bibliothèque aussi, on fait également beaucoup d'évaluations. Sans doute que ça évoquera des choses pour certains. Je vois une question de Raphaël Batz dans le chat, effectivement. Peut-être une deuxième question avant de vous libérer. Qui détermine quand est-ce qu'on considère qu'il y a un choc et comment, dans une ville ou dans une institution, peut-on travailler à définir collectivement ce qui fait le choc ? Comment déterminer à quel moment on a un choc ? Je ne sais pas si la question est très claire.
Peut-être si je peux m'exprimer pour clarifier. Vous disiez dans les présupposés qu'un des présupposés, c'est aussi de voir celui qui dit qu'il y a un choc. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui déterminent le choc, qui ont le pouvoir de déterminer et de finalement la maîtrise, et qui ont la maîtrise du discours. Et moi, je me demandais, est-ce que dans les exemples que vous avez étudiés de résilience, au fond, ce problème-là, il se rencontre à chaque fois et on a toujours cette sorte de maîtrise du discours qui fait que le jeu est un peu faussé d'office, ou est-ce qu'au contraire, les villes qui ont vraiment travaillé sur la résilience, elles ont trouvé, alors je dis les villes, mais ça peut être les institutions, comment travailler à avoir un discours plus collectif, ou peut-être une définition collective de ce qui fait le choc et de ce qui est véritablement choc pour la population. Je pense à l'exemple que vous avez donné de la Nouvelle-Orléans. Visiblement, l'accord entre ce que dit la ville et ce que disent certains habitants de où est le choc et est-ce qu'il est toujours là ou pas n'est pas calibré. Donc voilà, comment est-ce que ça peut se faire cette définition collective ?
Et alors, il y a deux dimensions sur cette question du choc. Il y a, dans le choc, il y a globalement quand même une dimension objective. Enfin, quand on va parler d'une inondation, d'un séisme, enfin là je vais surtout parler des villes parce que c'est ce que je connais le mieux. Donc il y a quand même un caractère assez objectif et que on est sur quelque chose qui se voit. Après, la question, ça va être finalement davantage comment caractériser ce choc. Est-ce qu'on va dire que ce choc est grave ou n'est pas grave, et est-ce qu'on va reconnaître le fait que pour différentes catégories de population, ce choc va avoir une ampleur différente. Et là, effectivement, il y a des villes qui ont travaillé davantage sur cette notion de réussir à déterminer cette collectivement cette question du choc, et surtout de voir dans quelle mesure ce choc a été surmonté. Donc, la ville de Paris a fait un effort dans sa stratégie de résilience pour réussir à penser, c'est ce qu'on appelle aussi le facteur humain. Même si elle est toujours en train de construire les indicateurs. Donc là, il y a celui qui était jusqu'à présent le Chief Resilience Officer de la ville de Paris a fait un travail assez extraordinaire. Il s'appelle Sébastien Maire, justement, pour créer une question collective, enfin un débat collectif sur cette notion de résilience. Donc ça, c'est assez intéressant, l'exemple de Paris. Un autre exemple qui peut être intéressant sur cette notion de collectif et de comment déterminer le choc, c'est l'exemple de Hambourg, que je vous ai donné rapidement, mais qui est très intéressant. Dans ma présentation, j'avais mis un petit graphique qui montrait notamment le fait que la ville de Hambourg a organisé avec les habitants des discussions quartier par quartier pour voir où pouvait-on accueillir les réfugiés. Donc, vous voyez, on a cette dimension de choc objectif. On doit accueillir un nombre important de réfugiés. Et ils ont pris prétexte le fait de dire où est-ce qu'on va pouvoir construire des logements pour pouvoir discuter avec la population sur l'accueil des réfugiés, qu'est-ce que ça signifie, et sur dire parfois, vous pouvez avoir des très bonnes idées, par exemple accueillir un réfugié chez vous ou donner une parcelle de une partie de votre jardin ou ci ou ça, mais finalement ça ne correspond pas forcément aux besoins et aux nécessités des réfugiés. Donc, toutes les bonnes idées ou les bonnes intentions ne sont pas bonnes à prendre parce que parfois votre jardin est loin des nœuds d'accessibilité, parce que parfois ça correspond pas aux nécessités, etc. Et donc l'ensemble finalement de ce dialogue en prenant prétexte de la question du logement a permis de désamorcer aussi un autre choc plus insidieux qui est celui de la non-acceptabilité de l'accueil des réfugiés.
Merci beaucoup, merci pour votre réponse. Je précise d'ailleurs, vous avez évoqué Sébastien Maire à l'instant. Il sera présent tout à l'heure. Nous l'avons invité pour la deuxième rencontre, donc nous allons pouvoir avoir son retour d'expérience également sur ce qu'il a pu mener pour la ville de Paris, en effet. Donc voilà, je vous remercie, comme le temps passe, je vous remercie vraiment pour votre intervention, vos réponses aux questions, surtout je vous remercie d'avoir participé malgré les circonstances d'aujourd'hui. C'était vraiment très, très intéressant. Voilà, je pense que ça nous aura tous donné à voir la résilience sous un angle nouveau et j'imagine que cette intervention ne manquera pas de nourrir le reste de la journée d'études et nos réflexions personnelles et collectives d'ailleurs. Donc voilà, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous et j'espère que vous avez quand même réussi à suivre un minimum avec
oui,
avec Balthazar Malade.
Bonjour la Balthazar. Merci beaucoup.
Merci
il
à
temps,
vous.
Et bonne il journée. Est temps à présent. Merci, merci. Il est temps à présent de poursuivre cette rencontre avec notre second intervenant du jour. Nous avons donc le plaisir d'accueillir à son tour Pascal Desfarges. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes le fondateur et directeur d'une structure de conseil aux collectivités en innovation territoriale qui s'appelle la société Rétis. Vous ne venez pas du milieu des bibliothèques, mais vous avez appris au fil de vos expériences à vous en rapprocher et à bien le connaître. En effet, vous avez commencé en vous intéressant à la culture du numérique, puis vous êtes spécialisé dans la question des tiers-lieux, ce qui vous a amené à travailler avec de nombreuses collectivités, y compris avec des structures de lecture publique. C'est donc en raison de ce parcours et de vos réflexions sur le rôle que peut jouer la bibliothèque dans notre société anthropocène que nous avons le plaisir de vous recevoir pour cette seconde intervention. Donc, tout comme Chloé Voisin-Bormouth avant vous, vous avez préparé une présentation de 20 minutes et il sera ensuite possible d'échanger quelques minutes autour des questions qui seront posées dans le chat. Donc, en ce sens, j'invite vraiment le public à ne pas hésiter à envoyer ses questions et ses réactions dans le chat de la conférence tout au long de l'intervention de Monsieur Desfarges. J'en prendrai bonne note et je les relayerai à l'oral à l'issue de la présentation. Voilà, je vous donne la parole, Pascal, pour ces 20 prochaines minutes. Donc, il est 9h49, donc jusqu'à 10h09, si je ne m'abuse. Je vous souhaite une bonne écoute à tous et à toutes, et je vous dis à tout à l'heure.
Merci, j'espère que tout le monde voit mon diapo, je ne sais pas.
Pour ma part, je le vois.
Très bien.
Pour préciser, n'hésitez pas tous à bien cliquer sur le petit la vignette en direct à côté de département des petits mondes, si je ne m'abuse.
Oui.
Et
oui, c'est ça.
Voilà, ça devrait fonctionner.
Très bien.
Je vous laisse la parole.
Merci, bonjour à tous. Et bien déjà, je remercie les élèves de l'ENSIB et puis le RIS de m'inviter à cette journée. Je ne suis pas bibliothécaire, mais je m'intitule personnellement exo-bibliothécaire. Ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les bibliothèques dans les cultures numériques et d'autres sujets. Alors la bibliothèque, vous voyez, j'ai intitulé ça la bibliothèque civique, je vais vous expliquer pourquoi. Un lieu pour alternatif pour penser le monde. Alors, je vais commencer par cette petite affichette qui est dans le Fab Lab du tiers-lieu La Quincaillerie à Guéret. Guéret, c'est la Creuse, donc c'est la diagonale du vide. Et le département de la Creuse est un territoire extrêmement résilient et extrêmement innovant en ce moment. Et regardez ce qu'il y a affiché dans le Fab Lab sur le mur. On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. Kant. La résilience, c'est accepter l'incertitude, c'est la gérer, la nourrir, imaginer un autre possible, Voilà. Et c'est intéressant parce que on a vu la capacité des Fab Labs pendant la crise du Covid-19, c'est-à-dire en fait un acte de démocratie contributive de citoyens partout en France, à commencer aussi par les Fab Labs des bibliothèques, à inventer des solutions techniques pour résoudre les problèmes des hôpitaux, notamment les masques, les respirateurs, etc. Et on a bien vu là cette capacité civique de la société civile à réagir aux incapacités parfois des administrations et de l'État. Voilà. Donc pour moi, c'est un très joli symbole. Alors, la résilience, c'est à mon sens, hein, d'abord, pour les bibliothèques, faire comprendre aux usagers, au public, les changements du monde contemporain. On est en plein changement de civilisation, avec des axes qui se croisent, hein, qui pourraient amener au chaos. Alors, je les ai un peu identifiés. Regardez, le paradigme numérique, hein, le capitalisme cognitif, pose une problématique de fracture numérique, d'inclusion numérique. Et on sait que les bibliothèques sont des structures, des équipements qui sont extrêmement importants dans ce domaine. Deuxième axe, évidemment, l'anthropocène, et on en a entendu parler dans la première intervention, et le changement climatique, hein, qui est en cours. Troisième axe, la géopolitique, hein, les géographies migratoires, le terrorisme. Et puis le quatrième axe, qui est peut-être le moins connu, mais en tout cas celui qui est le moins mis à jour en ce moment, c'est le développement des sciences, qui est ahurissant, un développement incroyable des sciences. Comment expliquer à quelqu'un dans une médiathèque ce qu'est la mécanique quantique, par exemple, et quel impact ça va avoir dans sa vie quotidienne ou future? Et donc pour moi, la bibliothèque aujourd'hui, la bibliothèque résiliente, c'est celle qui zoome sur ces grands axes, et évidemment les pandémies, hein, j'ai oublié, mais qui zoome sur ces grands axes et qui, l'équipement bibliothèque doit pouvoir donner au public, à ses publics, à ses usagers, une infrastructure de connaissances, de ressources, permettant de comprendre ces enjeux et donc de pouvoir réagir et s'approprier ces enjeux dans son quotidien. Voilà. Donc, je vais passer assez vite. Hein. De toute façon, le support sera disponible pour tous. Il est en Creative Commons. Hein. Et évidemment, hein, ça implique une politique documentaire qui est associée à tout ça. Donc, moi, je favorise l'idée de construire des collections transdisciplinaires, transmédia, sur ces trois grands axes, afin de valoriser ces grands axes et les mettre à jour et construire des politiques de médiation en fonction de ces axes. Voilà pour... alors évidemment, hein, dans ces grands axes, il y en a un qui est fondamental, c'est celui du système socio-technique qui est en train de changer petit à petit, au fur et à mesure des années, et on voit émerger des technologies où la bibliothèque peut aider l'usager à se les approprier. Hein. Si vous avez l'idée de la Smart City, par exemple, hein, qui a été ou de la French Tech, par exemple, l'idée de l'innovation, moi je considère que c'est l'innovation de surface, c'est-à-dire c'est un outil marketing pour introduire les technologies dans les villes dites intelligentes. Et bien, à ces villes dites intelligentes, moi j'y oppose l'intelligence de la ville. Et l'intelligence de la ville, c'est les humains. C'est les humains dans les équipements, et les bibliothèques sont au cœur de cette intelligence territoriale que peuvent produire les humains entre eux. Voilà pour le premier axe. Le deuxième axe autour de la résilience, c'est la notion d'infrastructure civique. Et derrière, l'idée du tiers-lieu. Moi, j'accompagne beaucoup de tiers-lieux en France. Je travaille pour la Caisse des dépôts et consignations. Je suis chargé de mission sur le développement de l'innovation territoriale et des tiers-lieux en France. Et on voit ce phénomène des tiers-lieux qui émerge depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, et qui sont fondateurs et qui ont un impact considérable sur les bibliothèques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous lirez ce diaporama, mais en plus en détail. Mais c'est pour moi l'idée que la bibliothèque est le lieu d'une démocratie délibérative. Aujourd'hui, on voit sur les territoires un dialogue s'instaurer entre la démocratie représentative portée par les élus, les collectivités, et donc qui décident des politiques publiques, donc de la lecture publique, hein, forcément, et un dialogue qui s'instaure avec une autre forme de démocratie, qu'on pourrait appeler démocratie délibérative, participative ou contributive, bien que c'est pour moi des couleurs différentes. Et cette démocratie délibérative, elle est portée aujourd'hui par les tiers-lieux, par cette idée de mettre en capacité le citoyen à agir sur son territoire, à penser son territoire, à le produire, à le réinventer. Et ces tiers-lieux, on peut aimer ou ne pas aimer ce terme, ça représente des infrastructures civiques, des espaces civiques dans l'espace public. Et il est urgent de créer et de développer ces espaces civiques dans l'espace public. Et les tiers-lieux sont un phénomène qui permet la mise à jour de ces infrastructures. Alors là, vous avez l'écosystème des tiers-lieux, hein, il est assez complexe aujourd'hui, il est difficile à cerner. Hein. On voit que les Fab Labs, les Makerspace, les Hackerspace font partie, mais on a toutes sortes de types de tiers-lieux liés à la transition écologique, des tiers-lieux culturels, des tiers-lieux éducatifs. Et ce processus tiers-lieu, ce n'est pas un lieu, un tiers-lieu, c'est un processus. Et ce processus tiers-lieu est en train de se diffuser dans l'espace public et dans les équipements publics. Et par exemple, dans les réseaux départementaux de lecture publique, les derniers schémas départementaux de lecture publique montrent très clairement l'influence du processus tiers-lieu, hein, le mot tiers-lieu revient souvent, et donc on le voit émerger aujourd'hui à l'échelle nationale dans les réseaux départementaux et évidemment aussi dans les grandes médiathèques urbaines. Mais ce processus tiers-lieu ne touche pas que les médiathèques et les départements, il peut aussi toucher les musées, toute forme de structure culturelle, les structures d'éducation populaire, les centres sociaux, la Croix-Rouge, par exemple, a mis en place un projet autour des tiers-lieux, ou la Fédération des familles rurales aussi a mis en place un projet sur les tiers-lieux, l'Association des parcs naturels a produit une étude sur les tiers-lieux. On voit que ce phénomène des tiers-lieux est en train d'avoir un impact considérable. Alors, je ne vais pas définir ce qu'est un tiers-lieu, mais je vous ai mis sur cette diapo l'essentiel de ce que représente le concept de tiers-lieu. La chose la plus importante, c'est la notion de gouvernance, c'est-à-dire que le tiers-lieu fonctionne sur une idée qui émane des cultures numériques et de l'open source et de la structuration et des infrastructures d'Internet elles-mêmes, c'est-à-dire un modèle peer-to-peer, pair-à-pair. Et si on prend ce modèle numérique pair-à-pair des réseaux décentralisés et qu'on l'applique dans le réel, dans le social, on obtient une configuration sociale pair à pair qui favorise l'interaction totale entre les usagers, entre les habitants, les citoyens, et ce qui fait que l'idée de gouvernance hiérarchique s'estompe. Et d'ailleurs, dans un tiers-lieu, il n'y a pas de chef, il y a un concierge, on l'appelle un concierge, ou on l'appelle un coordinateur pair à pair, et son rôle, c'est de mettre en lien les gens, de construire l'interaction, l'échange des savoirs et des savoir-faire. Alors, vous avez un certain nombre de valeurs, hein, le lien social, qui, d'ailleurs, dans les bibliothèques sont loin d'être en retard, puisque la concept de bibliothèque troisième lieu qu'avait fait émerger Mathilde Servet il y a quelques années, c'était déjà les prémices de cette idée de tiers-lieu, l'idée de contribuer pour l'usager, l'idée de convivialité, de mutualiser, et puis, au bout du compte, de considérer finalement la bibliothèque comme une communauté interactive, d'interaction sociale et d'échange. Et cette communauté interactive, elle a comme objectif, et on est là véritablement dans l'idée de la résilience, de construire des biens communs. Hein. C'est-à-dire une ressource qui peut être technique, qui peut être matérielle, qui peut être intellectuelle, que l'on co-construit ensemble, que l'on invente ensemble, que l'on gère ensemble et qui adopte les règles de la communauté. Voilà pour ce concept de tiers-lieu qui a une influence, à mon sens, considérable aujourd'hui sur les bibliothèques et loin d'être uniquement en France, hein, c'est à l'échelle internationale. Évidemment, les biens communs sont au cœur de cette démarche, hein. L'idée de construire des biens communs, alors pour qu'on aille très vite, hein, parce que j'ai très peu de temps, le bien commun numérique suprême, c'est Wikipédia. Eh bien, comment cette idée du partage des connaissances, de la co-construction des connaissances sur Wikipédia, on peut maintenant la poser dans le réel, dans l'espace social, dans la ville, hein, dans l'urbain, et de construire des biens communs qui sont parallèles aux biens publics. Hein, les biens publics, c'est ce que vous payez avec vos impôts, c'est le feu rouge ou le banc public, et qui sont portés par la question, enfin, par l'open source, par la culture des logiciels libres. C'est-à-dire, ce sont des biens libres de droit, partageables et mutualisables entre tous. Alors, deux exemples très vite, très rapides, hein, comme ça, en bibliothèque. J'ai ici, à gauche, la médiathèque intercommunale entre Dore et Allier, à Lezoux. Cette fameuse médiathèque qui a été co-construite et co-inventée par les habitants, et qui aujourd'hui, moi je l'accompagne depuis 6 ans maintenant, en formation et dans son projet de service, qui développe un projet de service contributif. Et c'est peut-être la différence entre le participatif et le contributif, c'est que le contributif, c'est chaque individu, chaque usager, chaque humain produit un commun, un bien commun. Et vous avez ici la grénothèque, la formidable grénothèque de la médiathèque de Lezoux, avec un catalogue indexé. On voit la borne interactive où on peut mettre sa clé USB, mais ça peut être aussi en ligne. Et on peut télécharger les fiches de chaque plante, chaque graine. Et donc là, il y a un véritable travail de bibliothéconomie, hein, par les bibliothécaires, de construction de fiches, d'indexation et d'un catalogue et d'une bibliothèque. Et puis à droite, autre dimension sur la résilience alimentaire, par exemple, c'est la construction par les habitants d'une cuisine mobile dans la bibliothèque, hein, et de façon à pouvoir faire la cuisine dans tous les espaces de la bibliothèque. Voilà pour cette idée de bien commun qui est évidemment au centre pour moi de la résilience. Évidemment, les bibliothèques ne sont pas, les médiathèques urbaines ou rurales d'ailleurs, ne sont pas éloignées de la thématique de l'écologie, et pour moi, elles sont essentielles dans la transmission, la médiation de l'écologie politique, hein, c'est-à-dire d'une écologie véritablement résiliente qui prend des décisions sur les territoires. Alors, je n'ai pas le temps de vous montrer 200 exemples de bibliothèques, j'en ai choisi une qui moi, me passionne, qui s'appelle la Local Library à Tilburg, aux Pays-Bas. Et pour moi, elle syncrétise un peu tous les phénomènes de résilience, puisque d'abord, c'est un foncier, c'est un ancien hangar de locomotive, hein, qui a été réaménagé, hein, donc c'est une forme de résilience urbaine, hein, avec ce qu'on appelle la programmation ouverte, hein, c'est-à-dire on a investi le lieu, on l'a travaillé, on l'a réimaginé, y compris avec les publics, et cette bibliothèque, vous voyez, réutilise les anciens châssis des locomotives pour en faire des tables. Hein. On y voit aussi la présence de la nature, il y a un potager, il y a toutes sortes de choses dedans. Il y a une modularité, moi j'appelle ça une bibliothèque liquide, il y a une modularité totale des espaces qui peuvent changer en permanence, puisque par exemple cette table peut avancer ou reculer. Et puis on a dans cette bibliothèque, cette grande médiathèque, des laboratoires. Ils ont organisé sous forme d'un écosystème de laboratoires où la bibliothèque est toujours vivante et toujours en train de se réinventer. Alors, par exemple, on a un Game Lab, où là, l'idée, c'est pas simplement de jouer, mais c'est d'inventer des jeux de société avec les citoyens. Et puis, il y a un Future Lab, où on a tout un travail sur imaginer le futur. Un World Lab sur l'apprentissage des langues, et ça, c'est lié aussi aux migrants, à l'accueil des étrangers. Un Dialogue Lab pour organiser des conversations. Un Time Lab, ça, c'est tout à fait passionnant. C'est la compilation de ressources locales pour raconter l'histoire de Tilburg, l'histoire de la ville et l'histoire de son territoire de proximité. Un travail autour des cours, des conférences. Et puis, là aussi, une cuisine mobile en bois qui apparaît, disparaît, se promène dans le lieu. Voilà. Et puis, évidemment, toujours sur la résilience urbaine, l'intégration de la végétalisation et de l'agriculture urbaine qui est intégrée dans la médiathèque. Donc pour moi, cette médiathèque est vraiment une sorte de synthèse de ce que peut être la résilience dans une bibliothèque. Troisième partie, la résilience comme acte de résistance. Ça, ce sont souvent des bibliothèques dont on parle peu souvent, c'est-à-dire que la bibliothèque est un outil de résistance, et de résistance évidemment à la résilience écologique ou numérique, par exemple, mais aussi résistance politique. Et juste comme simple exemple, l'émergence dans les années 60, par exemple, sur le mouvement des droits civiques, de bibliothèques, de freedom libraries, c'est-à-dire de bibliothèques sauvages, que les Noirs ont mis en place aux États-Unis. Alors, ces bibliothèques étaient souvent détruites par le Ku Klux Klan. Hein. C'était de résister, de pouvoir résister, de pouvoir continuer à lire, à se cultiver, à construire de la connaissance, à inventer de la connaissance. Et on a vu ces bibliothèques dans les années 60, hein, comme parallèlement d'ailleurs à l'émergence des mouvements utopiques et des communautés utopiques californiennes, par exemple, toujours dans en parallèle, qui étaient aussi des lieux de résistance civique. Et on a vu émerger ces bibliothèques qui étaient évidemment extrêmement fragiles et souvent détruites et poursuivies. Voilà. Évidemment, cette notion de civique, au vu des problèmes de racisme aux États-Unis récents, dans les villes justement, évidemment, elle continue aujourd'hui. Alors là, je vous donne juste l'exemple de la Free Black Women Library, fondée par ces deux jeunes femmes, qui met en valeur la femme noire aux États-Unis, et donc ils ont organisé une bibliothèque avec un catalogue complet sur cette thématique. Autre dimension de la bibliothèque comme résistance ou comme résilience, cette bibliothèque qui s'appelle la Chimurenga Library. Alors, c'est une bibliothèque qui n'a pas de mur. C'est une bibliothèque, moi j'appelle ça une bibliothèque liquide, elle n'a pas de mur, elle est basée, c'est une organisation qui est basée au Cap, en Afrique du Sud, mais qui opère dans les grandes bibliothèques européennes et aux États-Unis, à Helsinki, à Londres, à New York. Et le principe de cette bibliothèque, c'est de construire des savoirs locaux, hein, des objets de connaissances locaux avec les citoyens. Donc ça relève de la psychogéographie, hein. C'est une bibliothèque subjective. Donc on les gens amènent des ressources, des photos, doctorats, et tout ça est réorganisé, non pas sous la forme d'un catalogue indexé classique, mais sous forme pratiquement de carte heuristique, et qui permet de construire la mémoire locale, la mémoire en hyper-proximité. Et là, on voit émerger cette idée qui est portée par, qui est souvent portée par le politologue et le spécialiste de l'économie collaborative Michel Bowens, l'idée de cosmolocal. C'est-à-dire qu'une bibliothèque est à la fois un lieu d'hyper-proximité, hyper-local, qui vraiment agit sur son quartier dans la ville, hein, ou sur son territoire de proximité, et en même temps, porte des enjeux mondiaux, hein, comme ceux de l'écologie ou du numérique. Hein, à la fois, elle est extrêmement locale, extrêmement personnalisée, on va dire, et puis en même temps, elle porte des valeurs universelles. Et là, on a affaire avec la Chimurenga Library. Alors, voyez ce que ça donne, hein, j'ai oublié de vous montrer la slide de ce que ça peut donner, hein, des réseaux de savoir, des réseaux de documents, des réseaux d'humains qui interagissent les uns avec les autres, et qui finalement construisent une autre bibliothèque qui n'est pas, qui ne rentre pas en contradiction avec les catalogues et la bibliothéconomie classique, mais qui est parallèle et construit la mémoire locale, la résilience locale, les cultures locales autour de de sa bibliothèque. Voilà pour une autre vision de la résilience. Hein, la résilience. Alors c'est quoi finalement la résilience en bibliothèque? Je vous ai mis une référence à un livre, évidemment, qui est un livre d'un historien médiéviste qui s'appelle Sylvain Piron, aux éditions Zone Sensible, et qui a écrit ce livre absolument passionnant qui s'appelle « L'occupation du monde ». Et en fait, pour moi, la résilience, c'est réfléchir à une autre façon d'occuper le monde. C'est bien ce que la bibliothèque du Cap, cette bibliothèque liquide, propose. Une autre façon d'occuper le monde, de construire des valeurs autour du monde dans lequel on vit. Autre dimension, et ça c'est un thème majeur qui pourrait faire l'objet d'une conférence en soi et de livres, hein, d'ailleurs, c'est évidemment la bibliothèque comme refuge, et notre premier intervenant nous en a largement parlé, les migrants, voilà, les étrangers, comment on les accueille dans les bibliothèques, hein, et comment on les accueille, ils arrivent avec leur culture, avec leur vision du monde et comment ça peut être une richesse, une ressource aussi pour les bibliothèques. Alors, je vais terminer en disant, voilà, la bibliothèque résiliente, c'est celle qui n'est jamais faire figée dans ses certitudes. Celle qui bouge, qui est évolutive, adaptative, nomade, hein, qui réhumanise, en fait. Hein. Et évidemment, le concept de tiers-lieu, là, est très important sur cette idée de réhumanisation, hein, de la bibliothèque. Je vais terminer par un clin d'œil. C'est cette bibliothèque du futur qui a été inventée, imaginée par l'artiste écossaise Cathy Patterson. Alors, c'est basé sur l'idée d'une forêt qui est en train de pousser à l'heure actuelle, hein, en Norvège. Hein. On a planté 1000 arbres. Et ces 1000 arbres vont permettre de fabriquer des livres, d'imprimer des livres papier. Hein. Donc là, on est loin du numérique. Et on a demandé à des auteurs d'écrire des livres, des écrivains, des essayistes, qui vont écrire des livres. Ils vont les écrire jusqu'en 2114. Ils ne seront pas lus dans un premier temps, ils ne seront pas visibles, puisque ces livres ne pourront être produits que quand la forêt sera elle-même mature pour pouvoir produire du papier. Et donc, on pourra lire ces livres qu'en 2114. Voilà. Pour moi, c'était un très, très beau symbole de résilience, à la fois produire une bibliothèque de livres papier, de ressources documentaires, en se basant sur la réactivation d'une forêt. Voilà. J'en ai terminé et merci pour votre écoute. Et puis je suis voilà, je peux répondre à vos questions. Non, merci beaucoup.
Merci à vous, merci beaucoup pour cette intervention très riche en éléments et en exemples surtout. Un petit peu, mais c'est pas grave, ça arrive. C'est pas grave du tout. En tout cas, je suis certaine que cette intervention nous aura permis à toutes et tous de réfléchir à ce que les bibliothèques peuvent apporter à la société et en ce qui nous concerne aujourd'hui à la ville, pour tendre vers davantage de résilience. Je remercie également à nouveau Manuka pour ses dessins si éclairants pendant toute l'intervention. Voilà. J'ai déjà deux questions qui ont été posées par Johanna à l'instant. Vous avez parlé des biens communs au début de votre présentation. Elle aimerait, si possible, peut-être entre biens communs et résilience, c'est-à-dire dans quelle mesure les biens communs sont essentiels à la résilience. Et dans un deuxième temps, une deuxième partie de question qui interroge la différence entre le terme résistance et celui de résilience. Car vous avez évoqué les deux et elle aimerait savoir si vous y voyez une différence ou pas particulièrement. Voilà.
Alors, pour la première partie de question, bibliothèque et bien commun, alors, jusqu'alors, dans l'histoire des bibliothèques, on a surtout parlé de bien commun numérique. Hein. Il y a eu même plusieurs ouvrages de produits sur ce, sur ce sujet. La notion de bien commun, elle est fondamentale, elle est mondiale. Hein. Pour vous donner juste un ordre d'idée, le programme de l'agrégation de philosophie cette année, c'est les communs. Voilà. Hein. C'est l'idée du partage et de la mutualisation des ressources. Hein. Un bien commun, aujourd'hui, il est directement influencé par les cultures open source, par les logiciels libres. Si vous prenez le logiciel VLC, par exemple, que tout le monde connaît, hein, puisque tout le monde regarde des séries télé, eh bien VLC, c'est un outil qui est co-construit par une communauté de développeurs qui appartient à personne et à tout le monde. Hein. C'est une ressource commune. Donc ça, c'est une ressource numérique. Eh bien, cette notion de bien commun, maintenant, peut toucher les ressources matérielles. Ça touche d'ailleurs la question de l'économie circulaire, l'économie de proximité, les bibliothèques peuvent être des outils de production des communs. Hein. Le problème des biens communs, c'est leur médiation. C'est-à-dire que si vous demandez à votre boulanger la différence entre un bien public et un bien commun, il y a peu de chances qu'il puisse vous répondre. Et donc, pour moi, les médiathèques ont un rôle fondamental dans la médiation de l'idée des biens communs. Je dirais même dans le sens commun des biens communs. Hein. Si Wikipédia est un véritable bien commun de la connaissance aujourd'hui, toutes sortes toutes sortes de ressources peuvent devenir un bien commun. Donc évidemment, on pense en premier lieu, parce que c'était les communaux médiévaux d'autrefois, aux forêts, à la nature, aux grands espaces, aux fleuves, qui étaient des biens communs. Mais aujourd'hui, un bien commun, on peut le construire, on peut le produire. Et par exemple, la Grainothèque de Lezoux, je vous ai montré tout à l'heure, c'est un simple exemple, hein. C'est l'idée de construire quelque chose en commun et qui appartienne à tous, qui ne relève pas d'un brevet industriel et qui peut être surtout applicable à l'échelle planétaire. Et donc là, il y a cette idée de la bibliothèque comme centre de ressources pour comprendre ce qu'est un bien commun, mais comme aussi plateforme de production de commun avec les habitants autour de la bibliothèque. On voit bien déjà autour des bibliothèques, par exemple, émerger les jardins partagés, les ateliers de résilience alimentaire, on voit déjà les communs, et évidemment, les Fab Labs aussi sont au cœur de ce sujet. Donc, pour moi, le rôle des bibliothèques et des réseaux de bibliothèques aussi est fondamental. Voilà pour la première partie de la question. Et la deuxième partie, je ne me souviens plus en fait.
Alors, c'était sur la différence entre les termes résistance et résilience. Est-ce que vous voyez une différence?
La différence, oui. Notre premier intervenant l'a très bien rappelé tout à l'heure. La résilience, c'est quand face à un choc, face à une crise, on retourne. Finalement, il y a. Comment dire? Il y a l'idée. D'un retour à un état précédent. Hein, c'est vrai que c'est assez complexe à comprendre. Il y a un retour à un état précédent, alors que la résistance, ça casse. Je pense que notre intervenant avait utilisé l'idée du roseau, hein, de La Fontaine. C'est qu'il plie, il retourne à son état précédent et il ne casse pas. Alors, pourquoi moi j'amène l'idée de résistance ? C'est plutôt de la notion de résistance au sens politique, c'est-à-dire que parfois les bibliothèques ont été des outils politiques, des outils de résistance. Évidemment, c'est beaucoup plus chaotique, c'est beaucoup plus destructeur, ça n'a pas forcément, ça ne rentre pas sur le long terme, c'est plutôt une action liée à l'événement, à l'événementiel, alors que la résilience, c'est un acte sur la longue durée. C'est un acte structurel. La résilience, c'est une culture. Et peut-être que je pourrais résumer ça autour des bibliothèques. La bibliothèque doit être l'espace civique qui permet de construire une culture de la résilience. Hein? C'est-à-dire sur le long terme. Ce n'est pas, c'est un phénomène lent qui se construit strate par strate. Quand on organise un atelier contributif ou un atelier participatif dans une bibliothèque, ça permet aux gens de prendre conscience, de s'investir, de s'approprier cette idée que aujourd'hui toutes les ressources du monde ne sont pas brevetables, ne sont pas industrialisables. Elles peuvent se co-construire ensemble et se partager. Et du coup, le rôle pour moi fondamental d'une bibliothèque, c'est d'inventer, de construire, de proposer évidemment des ressources documentaires autour d'une culture de la résilience. Et ça, c'est le long terme qui le permet.
D'accord, merci. Comme le temps passe, on va peut-être juste prendre une dernière question très rapidement. La question qui est dans le chat, qui est comment relier la modalité de la bibliothèque résiliente à l'idée du choc et du trauma qui est au cœur de la notion de résilience. Cette question, elle s'explique parce qu'en fait, la bibliothèque, souvent, elle se place dans un temps plus long que celui de la crise et du choc. Donc, comment relier la bibliothèque résiliente au choc?
On peut se baser sur l'expérience du Covid. Si on se base sur l'expérience du Covid, on peut avoir une politique autour de la culture de la résilience sur le long terme, infrastructurelle, on va dire, avec la mise en scène de collections spécifiques, avec la mise en scène d'actes de médiation sur le long terme. Et puis en même temps, une bibliothèque, on l'a vu, hein, notamment les bibliothèques équipées des Fab Labs, les bibliothèques ont su réagir concrètement au chaos immédiat. C'est-à-dire, un, dans les Fab Labs, à la production d'outils techniques autour de la santé, mais en même temps, en organisant, par exemple, les drives, hein, les drives pour les bibliothèques, c'est-à-dire que de continuer à pouvoir emprunter un livre en bibliothèque, à pouvoir aller chercher un livre en bibliothèque, on a bien vu que les bibliothèques sont capables de faire les deux sur leur territoire. Voilà un peu ma réponse. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. Les deux sont fondamentaux.
D'accord. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je suis navrée comme le temps passe.
Bien sûr.
Je crains que nous devions nous arrêter ici pour la réponse aux questions. Le temps passait très vite. Et bien sûr, les sujets traités au cours de cette rencontre numéro 1. Oui.
Voilà, merci à tous. Juste vous dire que le diapo est en Creative Commons, donc vous pourrez le diffuser à l'ensemble des participants.
C'est parfait. Vous me le transmettrez et je le diffuserai avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
C'était vraiment un plaisir de vous accueillir et de vous écouter aujourd'hui. J'espère que les réflexions que vous nous avez partagées pourront nous accompagner chacun dans nos réflexions professionnelles. Je remercie à nouveau Manuka pour ses illustrations qui sont une vraie valeur ajoutée à ces conférences. Et il est temps à présent pour moi de rendre le micro à nos chers animateurs avant de passer à une courte pause. Guillaume, Mélissa, j'espère que cette première rencontre vous aura aidé à y voir plus clair sur les questions posées par cette journée d'études.
C'était très intéressant et surtout, la notion de résilience est beaucoup plus claire pour moi. Je remercie aussi Chloé Voisin-Burmout et Pascal Desfarges pour leur intervention. Je vous propose donc une courte pause.